Nous allons à présent ouvrir la parole de Dieu pour la prédication. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. Aide-nous à l'utiliser, à l'ouvrir pour t'entendre parler, et non pas pour trouver des confirmations, pour aller dans notre sens, mais pour nous laisser déplacer par ce que tu as à nous dire. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, celui qui est la parole. Amen. Alors ce matin, j'aimerais prendre ce texte qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 12. Vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous le souhaitez pour le suivre dans votre version. Vous pouvez écouter la lecture que je vais en faire dans ma version, qui est la version NBS. Donc Philippiens, au chapitre 3. Donc c'est Paul qui est dit, qui écrit et qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par le Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est leur perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous pour qui j'ai une vive affection, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ce texte, je l'ai dit avant de commencer la lecture, est écrit par Paul. Paul, un apôtre. Et durant son ministère, durant sa vie, il a tourné autour du bassin méditerranéen pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et là où l'évangile prenait, eh bien, il fondait des églises. Là où il y en avait, il les fortifiait. Et quand il était loin, il leur écrivait pour les corriger ou pour les encourager à demeurer dans la foi. Le texte que je viens de lire est tiré d'une telle lettre. Et cette lettre est adressée aux chrétiens de Philippe. Philippe est une ville de Macédoine, au nord de la Grèce, et Paul y a fondé une église. Mais surtout, il l'écrit alors qu'il approche de la fin de sa vie, lors d'un de ses séjours en captivité. Et je trouve à la lecture de cette lettre qu'on sent une certaine urgence. un certain besoin de recentrer son message et de laisser des directions claires. Ce texte, je ne sais pas si vous le trouvez limpide, je trouve qu'il a un côté paradoxal. À la fois, on sent bien le mouvement général que Paul veut donner, et quand on regarde dans le détail, c'est pas facile de tout comprendre, les différentes phrases, les différents versets. On y trouve des points compliqués qui nécessitent de réfléchir. Mais commençons par la vue d'ensemble. Le mouvement général du texte. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais je sens cette injonction au mouvement. Avançons, avançons ensemble. Cette semaine, en me promenant dans Clermont, j'ai vu des affiches qui ont été collées un peu partout pour un mouvement politique. Et dessus, ces simples mots, En marche. Et en lisant le texte de la prédication, je me demandais si Paul finalement ne nous disait pas la même chose. Finalement, ce message n'est pas très original. En marche, en avant, avançons. Je crois qu'il y a un élément vraiment différent dans les discours de Paul. C'est que Paul invite à garder les yeux fixés sur le but. C'est pas seulement en marche, mais c'est en marche en regardant le but. Je me souviens du premier conseil qui m'a été donné lorsque j'ai commencé à apprendre à conduire. Ma mère m'a dit « Regarde loin, au bout de la route ». Et effectivement, j'ai pu le constater, quand on conduit, si on regarde juste devant soi, on a tendance à donner des grands coups de volant et la voiture bouge, alors que si on regarde au loin, on a une meilleure direction. Plus on fixe loin, le bout de la route, plus il est facile de trouver la direction. Avançons donc, avançons oui, mais dans quelle direction? Paul le dit au début de notre lecture, je poursuis cela au verset 12. Cela, oui. Cela fait référence à ce qu'il a dit juste avant, au verset 10. Pour lui, la direction, c'est connaître le Christ, connaître la puissance de sa résurrection, connaître la communion de ses souffrances, et être configuré, c'est-à-dire semblable à lui dans la mort. La direction, c'est Jésus-Christ. Pas seulement connaître Jésus-Christ, genre j'en ai entendu parler, savoir qui il est, en avoir entendu parler, mais avoir une vie transformée, configurée comme lui dans sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez le signe par lequel on montre qu'on est chrétien. J'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit du baptême. Par le baptême, le croyant est plongé dans l'eau, mimant sa mort. Le chrétien renonce à sa vie passée, celle où il pilote lui-même sa vie. Et puis quand il ressort, il indique qu'il veut vivre une vie nouvelle, où il n'est plus maître de ses choix et de ses actions, mais qu'il veut se soumettre à Jésus-Christ. Et il y a une opposition fondamentale entre la vie ancienne et la vie chrétienne. Paul le dit un peu plus loin dans le texte qu'on a lu en parlant de ceux qui ne suivent pas le même chemin. Leur Dieu, c'est leur ventre. Comprenez, leur Dieu, c'est eux-mêmes. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, dit Paul. Un chrétien laisse derrière lui les choses de la terre. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? L'argent, les biens matériels, le confort que tout ça procure? Posséder, s'entourer d'objets, une maison, une belle voiture, un nouveau téléphone? J'ai besoin de ces choses et quand je les aurai, je serai heureux. Ou est-ce que ce qui nous met en mouvement, ce sont les autres? Ce qu'ils pensent de moi? Leur plaire? Leur faire plaisir? Que l'on ait une bonne opinion de moi? Être reconnu comme quelqu'un qui a de la valeur? Quand j'aurai beaucoup d'amis, en vrai ou sur les réseaux sociaux, je serai heureux. Ou est-ce que c'est la religion? D'ailleurs, dans le contexte immédiat du texte dont on a parlé, c'est de ça dont Paul parle. Certains chrétiens tiennent encore à respecter des règles religieuses telles que les prescriptions alimentaires ou la circoncision, comme si ce qu'ils faisaient par leur bonne conduite, eh bien c'est ça qui était leur force, qui les déclarait justes aux yeux de Dieu. Ça peut nous faire sourire, nous, 20 siècles plus tard, c'est plus les débats qui nous occupent s'il faut être circoncis ou pas, ce qu'il faut manger ou pas. Mais n'y a-t-il pas aussi pour nous, à notre époque, des choses pour lesquelles on se dit « je suis un bon chrétien parce que je fais ça, parce que je ne fais pas ça ». Et toutes ces choses, l'argent, avoir le souci des autres, une discipline religieuse, ne sont pas des mauvaises choses. Elles sont utiles dans notre vie, de bons serviteurs. Mais ce sont de mauvais objectifs. Et à trop se concentrer dessus, on prend le risque, eh bien, de la sortie de route, comme quand on conduit en ne regardant pas plus loin que le bout de son capot. Un chrétien doit regarder plus loin. Un chrétien vise la ressemblance à Jésus, même quand elle coûte jusqu'à sa vie. Je me tiens devant vous et je ne suis pas dans une situation facile parce que ce que je prêche, j'ai conscience que j'ai du mal à le mettre en place dans ma vie. Être semblable à Jésus, oublier mes propres désirs, mes propres motivations, mon propre intérêt pour vivre comme lui, le don de moi-même pour la gloire de Dieu, eh bien j'en suis loin. Et en fait, plus j'avance dans la foi chrétienne, plus je me rends compte combien j'étais configuré pour moi-même, combien il me reste encore du chemin à parcourir. Et je ne suis pas dans une situation facile, mais Paul, lorsqu'il écrit, ne l'est pas non plus. Il le dit à ses correspondants. « Je n'ai pas encore obtenu cela. » Je ne suis pas parvenu à l'accomplissement. C'est un combat. C'est le combat d'une vie. Mais c'est un combat qu'on mène ensemble. Avançons ensemble, dit Paul. Car nous ne sommes pas seuls dans cette avancée. Il y a les autres chrétiens dont Paul nous invite à trouver des modèles. « Imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous », dit-il. Des modèles. On peut penser que ce sont là de pauvres modèles qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de ce qu'ils souhaitent. Paul le dit, il n'est pas arrivé, il est encore en chemin. S'ils ne sont pas arrivés, s'ils n'ont pas réussi à mettre en place dans leur vie ce qu'ils proclament, comment peuvent-ils être des modèles? Ils sont modèles parce qu'ils avancent dans la bonne direction, parce qu'ils se sont tournés vers le but. Et avoir à côté de soi des personnes qui vivent avec constance le même objectif, qui certes font des erreurs, mais qui les reconnaissent, qui pratiquent l'humilité et qui montrent aussi la volonté de ne pas se décourager et de continuer à avancer. Avoir de telles personnes à côté de soi, eh bien, c'est précieux. Encore faut-il discerner les bons modèles. En effet, Paul insiste, portez les yeux sur ceux qui suivent le modèle, alors que beaucoup se comportent en ennemis de la croix, au sein même de l'Église. Comment reconnaître le bon modèle? Tout d'abord, il faut prendre conscience que nous ne sommes pas tous au même point. Et c'est normal. Dans l'Église, nous n'avons pas tous la même maturité spirituelle. Certains débutent le chemin, quand d'autres le pratiquent depuis longtemps déjà. Certains progressent rapidement, quand pour d'autres c'est plus difficile à cause de leur passé. Certains sont en pleine forme, quand d'autres, pris par des difficultés passagères, perdent temporairement de vue l'objectif. Comment reconnaître un bon modèle? Jésus invite à regarder aux fruits. Il le dit dans l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne, on reconnaît un arbre à ses fruits. En regardant ce que produit la personne, le témoignage qu'en rendent les hommes, les autres, l'envie qu'elle suscite autour d'elle de connaître Dieu, en reconnaissant en elle le caractère de Jésus-Christ qui grandit. Cela pose la question de reconnaître si les fruits sont bons. Mon père a des arbres fruitiers et cette année, ils ont donné beaucoup de fruits, en particulier les poiriers. Mais alors qu'il voulait attraper une poire mûre, ses doigts se sont enfoncés dans le fruit. Il était creux, complètement mangé de l'intérieur par les guêpes. Ce n'est pas toujours facile de distinguer quel est le bon fruit. Mais pour distinguer un bon fruit spirituel, rien de tel que la Bible. Lire la Bible. Les évangiles où l'on parle de Jésus et où on peut non seulement connaître ce qu'il a fait, mais aussi apprendre son caractère. Lire également l'ensemble de la Révélation, l'Ancien Testament où, dans l'attente, se dévoile petit à petit la figure de celui qui doit venir. Les épîtres où les apôtres tirent les applications pratiques et concrètes des enseignements de Jésus. Si vous étiez avec nous cet été, vous vous souvenez certainement de la description du fruit de l'Esprit. Voilà un guide pour reconnaître les fruits d'un bon modèle. Et vu sous cet angle, l'Église est une concentration de modèles. Concentration de modèles rassemblés dans un même endroit. Et en cela, elle est un lieu de croissance, un lieu idéal pour avancer. Et je crois que c'est un but de l'Église que de fournir comme ça un environnement propre à la croissance. Mais cela ne s'arrête pas là. L'Église n'est pas seulement un lieu privilégié pour la croissance de chacun. L'Église est, elle aussi, invitée à se mettre en marche. Avançons, dit l'apôtre. La Bible décrit l'Église comme un corps dont le Christ est la tête. Elle est la présence que Jésus laisse au monde, dans le monde, pour parler de lui, pour continuer à avancer, à annoncer l'Évangile et pour montrer son royaume. Et comme un chrétien doit prendre conscience de son appel et grandir petit à petit dans la fidélité, eh bien l'Église, elle aussi, est appelée à prendre conscience de qui elle est, de son appel, de ce qu'elle est censée faire. Qu'est-elle censée faire, l'Église? Que sommes-nous censés faire? Être un corps. Vraiment. Être un corps, ça a des applications concrètes. Et nous nous sommes remémorés certaines de ces implications pendant la Sainte Cène en lisant 1 Corinthiens chapitre 12. Et si vous voulez méditer, vous pouvez aussi lire le très beau texte parallèle dans Romains au chapitre 12. Être un corps, ça a des implications dans l'unité. Faire un. Prendre conscience que nous ne venons pas à l'Église pour y faire ce que nous voulons, pour amener ce qu'on veut et repartir, pareil, mais que nous y venons pour prendre part dans la soumission mutuelle à un projet commun qui nous dépasse, non pas le projet du pasteur ou du conseil, ni même de l'Assemblée générale, mais celui de Jésus-Christ. Comment le faire? Ça paraît difficile, mais c'est justement pour ça que l'apôtre invite à persévérer. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre rapidement et qu'on garde une fois pour toutes. C'est un chemin, et un chemin d'espérance. Comment le faire? Paul donne des éléments. Comme pour chacun d'entre nous, nous sommes invités à oublier ce qui est en arrière et tendre vers ce qui est en avant. Oublier ce qui est en arrière, c'est-à-dire ne pas confondre notre histoire et l'objectif. Nous venons de parcours différents, d'églises différentes, et ces parcours sont certainement beaux. Mais il nous faut prendre conscience qu'ils ne sont pas la référence. Nous devons accepter de construire ensemble une vie d'église commune, une vie qui accueille d'autres parcours que le nôtre. Oublier ce qui est en arrière, c'est accepter aussi que notre histoire commune, notre façon de vivre cette église il y a quelques années, eh bien cette façon de vivre l'église peut évoluer. Alors, il ne s'agit pas de devenir une girouette et dès qu'une nouvelle orientation s'exprime, eh bien l'épouser. Je vous renvoie à la prédication d'il y a 2 semaines, la prédication de la rentrée. Nous avons une référence à travers l'Écriture qui est notre boussole pour éprouver ce que nous recevons. Nous avons pris aussi des orientations qui structurent la réception de la nouveauté. Mais nous acceptons que nous sommes en mouvement et non pas pétrifiés dans une position immuable. En fait, c'est ce que Paul exprime par ce qu'il dit, au point où nous en sommes parvenus. C'est au verset 16. Nous sommes ensemble arrivés à un certain point, à travers des parcours différents, des histoires différentes, individuelles et collectives. Nous avons connu des succès en compagnie des seigneurs, du Seigneur. Nous avons connu des épisodes moins glorieux. C'est là où nous sommes. C'est là le point où nous sommes parvenus, celui dont nous partons pour avancer. Oublier ce qui est en arrière et tendre vers ce qui est en avant. C'est surtout là que doit se tourner notre regard. Vers le fait que l'Église se prépare à accueillir Jésus lors de son retour. Et qu'en attendant, nous sommes appelés à lui faire honneur par notre unité, par notre amour les uns pour les autres, par notre désir de rendre visible son projet d'amour pour le monde. Cet horizon est le point vers lequel nous devons garder les yeux fixés. Et ce mouvement, mes amis, eh bien, ce n'est pas une option. Nous n'avons pas le choix. Comme je l'ai dit en introduction, on sent dans ce texte de Paul une certaine urgence. Emprisonné, il prend conscience qu'il ne sera pas là pour toujours et il tient à souligner ce qui est essentiel. Si nous sommes des gens accomplis, écrit-il, et dans ma version, le mot « accompli » est entre guillemets. Si nous nous disons « accompli », « mature », « adulte spirituellement », eh bien, prouvons-le. En prenant ce mouvement et en ne nous dispersant pas. Tenons-nous-en à cette pensée, écrit-il. Et sur les points secondaires, si nous avons des avis différents, mettons-les de côté J'entends parfois dire que l'Église ne fait pas assez ceci ou cela, ne prêche pas assez sur tel sujet ou trop sur celui-là, que les prédications sont trop courtes ou trop longues, que le conseil prend trop de place ou pas assez. Je ne suis pas en train de régler des comptes parce que ce que je dis de ce que j'entends ici, je l'entends aussi ailleurs, sur les autres églises, ça a l'air d'être une constante. On est parfois très fort pour dire que l'essentiel dans l'église, c'est tout ça. J'ai l'impression que, en lisant ce texte, pour Paul, l'essentiel, c'est ça. Une direction et des modèles qui nous inspirent pour la suivre. Alors, mettons-nous en route, sans attendre, avec ces modèles et en chemin. Dieu nous guidera. Mes amis, à travers les siècles, Paul nous presse. Il nous presse en pleurant, dit-il. Nous ne sommes pas église pour disserter sur différentes façons de faire, pour débattre sur des points secondaires. Nous sommes église pour avancer ensemble dans la même direction, la ressemblance à Jésus-Christ, individuellement et en église. Nous sommes appelés à être le corps qui l'attend, celui qui lui rend honneur. Et si nous sommes accomplis, si nous nous disons adultes dans la foi, eh bien nous n'avons pas le choix. Au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble, les yeux fixés sur le but, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prier. Seigneur, il y a de l'urgence dans cet appel de Paul. J'aimerais te prier que tu nous aides à le prendre avec sérieux. J'aimerais te prier que cet appel ne nous paralyse pas. Ne nous plonge pas dans une contrition qui nous stoppe. Seigneur, tu nous le rappelles. Nous sommes en chemin et tu marches avec nous. Merci de marcher à nos côtés. Merci parce que à côté de nous, tu as placé des modèles que nous n'avons pas seulement à chercher, à les chercher dans le passé. Mais tu les places à côté de nous. Rends-nous persévérants. Rends-nous patients avec nous-mêmes. Et rends-nous aimants les uns avec les autres pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre but. Amen.